Par visions apprises. Il y a une paresse universelle et pour ainsi dire infatigable. C'est le travail qui se fatigue. Mais la fatigue ne se fatigue pas. La dénonciation de cette paresse, de cette fatigue, de cet intellectualisme constant est au seuil de l'invention bergsonienne. On me dit, qu'est-ce que c'est que cette invention qui ne consiste qu'à dénoncer une vieille habitude? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté qui consiste à dénoncer, et quand même elle consisterait à révéler une tare héréditaire? Qu'est-ce que c'est que ce positif qui consiste à ne point tomber dans le négatif? Qu'est-ce que c'est que ce plus qui consiste simplement à ne point tomber dans le moins? Qu'est-ce que c'est que cette acquisition? Qu'est-ce que c'est que cette conquête qui consiste à ne pas perdre ses plus anciennes provinces? Et moi, je demande, en connaissez-vous beaucoup d'autres? Empêcher l'homme de descendre certaines pentes, n'est-ce point un travail de géant? Empêcher l'homme de descendre certaines pentes sentimentales, certaines pentes morales, certaines pentes de conduite, n'est-ce point le travail et la plus grande partie du secret de tant d'arts et des plus grandes morales? Empêcher l'homme, déshabituer, désentraver l'homme de descendre certaines pentes mentales, si seulement on y réussissait, certaines pentes de pensée, soyons convaincus qu'il y aurait là, qu'il y avait là matière, objet à une très grande logique, à une très grande morale, à une très grande métaphysique. La liberté, dont on dit qu'elle est le premier des biens, ne s'obtient généralement que par une opération de désentrave. Pourquoi la réalité, qui est peut-être un bien plus profond, ne s'obtiendrait-elle pas aussi par une opération de désentrave? Et pourquoi une opération de désentrave ne serait-elle pas une opération d'une extrême importance? La Révolution française a été une opération, un événement historique énorme, parce qu'elle a fait semblant de désentraver le monde d'un semblant de servitude politique. Et enfin, tout l'immense appareil de l'incarnation et de la rédemption n'a-t-il pas été dressé pour désentraver l'homme, pour l'empêcher de rester tombé dans l'esclavage, et j'ai presque envie de dire, dans l'habitude du péché originel? Car le péché était surtout devenu une immense habitude, et l'esclavage est l'habitude, pour ainsi dire, la plus habituée. Il faut faire attention d'ailleurs que cette expression, le tout fait, si elle revient constamment, comme il était naturel et comme il fallait s'y attendre dans la philosophie de Bergson, est conduite à y revenir en deux sens assez sensiblement différents, et que je ne vois pas que l'on ait suffisamment distingué. Quand Bergson oppose le tout fait au se faisant, et je voudrais bien savoir comment il pourrait dire en d'autres termes, et il faut tout de même bien de la mauvaise volonté pour ne pas reconnaître dans ce participe passé et dans ce participe présent les héritiers de deux beaux participes grecs moyen passif. Il fait une opposition. Il reconnaît une contrariété métaphysique de l'ordre même de la durée et portant sur l'opposition, sur la contrariété profonde, essentielle, métaphysique, du présent au futur et du présent au passé. C'est une distinction de l'ordre de la métaphysique. C'est cette profonde et capitale idée bergsonienne que le présent, le passé, le futur ne sont pas du temps seulement, mais de l'être même. Qu'ils ne sont pas seulement chronologiques. Que le futur n'est pas seulement du passé pour plus tard. Que le passé n'est pas seulement de l'ancien futur, du futur de dedans le temps. Mais que la création, à mesure qu'elle passe qu'elle descend, qu'elle tombe, du futur au passé, par le ministère, par l'accomplissement du présent, ne change pas seulement de date, qu'elle change d'être. Qu'elle ne change pas seulement de calendrier, qu'elle change de nature. Que le passage par le présent est le revêtement d'un autre être. Que c'est le dévêtement de la liberté et le revêtement de la mémoire. Mais quand ce même philosophe parle de tout fait, dans le sens d'idées toutes faites, de pensées toutes faites, il prend ce mot dans le sens où on dit un vêtement tout fait pour un vêtement de confection au lieu d'un vêtement sur mesure. C'est une distinction de fabrication, d'opération, de coupe, de technique. La philosophie bergsonienne veut que l'on pense sur mesure et que l'on ne pense pas tout fait. D'autant qu'un vêtement de confection est toujours un vêtement d'occasion. C'est un vêtement d'occasion dans le neuf, au lieu d'être un vêtement d'occasion dans le vieux. Mais c'est toujours un vêtement d'occasion. C'est par occasion qu'il va, ou qu'il est censé aller. Ce n'est point par une adaptation propre antérieure, par une coupe propre antérieure. Ce n'est point par une adaptation unique, par une coupe destinée. C'est une des plus grandes sources de sophismes et d'erreurs. Ou, pour demeurer dans notre comparaison, je dirais, c'est un des plus grands magasins de sophismes et d'erreurs que cette négligence de considérer, cette faute de considérer, ce défaut de considérer, je veux dire que cette négligence qui consiste à ne pas considérer, à négliger de considérer que du tout neuf n'est pas forcément du tout nouveau. Beaucoup de contresens viennent de là, et beaucoup de fautes de jugement. D'erreurs de jugement. On croit généralement qu'il suffit qu'une idée soit neuve pour qu'elle soit nouvelle. On croit qu'il suffit qu'une idée soit neuve pour qu'elle n'ait jamais servi. Quelle erreur ! Elle a servi au fabricant. Quand un arbre de théâtre, quand un amour de théâtre sort de chez le fabricant, il est tout de même un vieil arbre, il est tout de même un arbre tout fait, et il est tout de même de théâtre. Il a beau être neuf, il n'est pas pour cela un vrai arbre, un arbre dans la campagne. Ce n'est pas pour cela un nouvel arbre dans le monde.